À chaque expérience, t'apprends, tu fais tes erreurs, tu les notes bien dans ta tête, parce que certaines erreurs font plus de dégâts que d'autres, on va dire, mais chaque erreur est bonne à prendre.
Bienvenue dans le podcast Altitude, le podcast qui vous montre que rien n'est écrit à l'avance, qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous montre que la liberté de changer de voie existe et qu'on a le droit de sortir des sentiers battus.
Plus tu fais des erreurs et plus tu te connaîtras et plus tu sauras te guider toi-même, en fait. En fait, l'erreur, c'est un cadeau, quoi. C'est trop bien de faire des erreurs. Mais quand tu les vis, c'est pas toujours simple.
Je m'appelle Emma, je suis étudiante en sciences politiques européennes à ESPOL, et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Iman, qui a effectué un master sécurité et défense à ESPOL, à l'Université catholique de Lille. Tournée vers les autres depuis toujours, elle exerce aujourd'hui le métier de psychothérapeute. Alors bonjour Iman.
Bonjour Emma.
Alors, tu es psychothérapeute. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton métier ?
Oui, alors je suis psychopraticienne. C'est assimilé thérapeute, mais c'est juridiquement juste un autre statut. Mon métier consiste à accueillir des personnes dans mon cabinet ou en visio. Des personnes qui rencontrent des souffrances qui, du coup, les bloquent dans leur vie au quotidien. Les bloquent ou les éloignent de leur épanouissement, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est des personnes qui ont fait la démarche volontaire de me contacter et on se rencontre. Et l'idée, c'est que séance après séance, avec des échanges verbaux principalement et puis quelques ateliers... Tu vois, on est à modifier de la conscience, comme des visualisations, des ateliers de respiration, des choses comme ça, permettent de libérer ce qu'il y a à libérer, émotionnellement parlant, et le processus suit son cours, quoi. C'est tout un processus que j'ai honneur d'accompagner, et voilà.
Et donc, au-delà de ces tâches d'accompagnement des personnes, tu as un cabinet, tu l'as mentionné. Quelles tâches tu dois effectuer au quotidien pour gérer ce cabinet ?
Alors, du coup, en administratif, d'abord, il y a eu toute la création. Je suis en auto-entreprise. Ça, j'ai été accompagnée par la CCI de Nantes pour... bien mener mon projet, tu vois, éviter les pièges de débutants, etc. Et puis au quotidien, aujourd'hui, maintenant que je suis installée, gérer les mails, les demandes qui tombent, les appels, les SMS, les annulations, les reports de consultation. Je gère aussi donc mon agenda complètement seul. Et ça, en fait, c'est quand même très important. L'idée, c'est que j'essaie de me laisser une journée par semaine. Ou alors une moitié de journée, une demi-journée pour gérer tout ce qui est administratif. Donc une fois par mois, ça peut être du coup gérer l'URSSAF, les charges, etc. Il y a plein de petites choses, mais qui sont finalement en fait super importantes pour que ça roule, quoi.
Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ?
Ce qui me plaît le plus, c'est d'être face à mes clients et de me laisser porter par la séance. Aucune séance ne ressemble à une autre. Et c'est vraiment ce qui me fait vibrer en fait, c'est que il y a une connexion tellement authentique en cabinet ou même en visio, mais en tout cas en travail thérapeutique, c'est quelque chose. Je suis honorée en fait d'être présente dans des moments qui sont de l'ordre de l'intime. Et que les personnes me considèrent comme une personne de confiance et qui me laissent accéder à ça, pour moi, c'est quelque chose de très précieux que je respecte énormément et c'est vraiment ce que je préfère, quoi.
Et du coup, on va revenir quelques années en arrière pour expliquer un petit peu ton parcours qui est assez atypique. Tu as fait un master sécurité et défense à ESPOL. À ce moment de ton parcours, quel était ton objectif ? Qu'est-ce que tu te voyais faire après ce master ?
Je me voyais travailler en institution européenne ou internationale. Idéalement, mon rêve aurait été de travailler dans la médiation, dans la résolution de conflits ou le maintien de la paix. Voilà, en fait, en termes de vocabulaire, j'étais attirée par ça et je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. La médiation, c'est tout moi, ça, et j'ai toutes les compétences pour, et la curiosité, en fait. Les mots me parlaient, mais j'avais aucune idée réellement de ce que ça voulait dire, et j'étais curieuse. Et c'est pour ça que j'ai été à ESPOL Bah, pendant 2 ans, du coup.
Et justement, en quoi consiste ce master? Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quels cours t'ont marqué, quel parcours, quel type de cursus c'est?
Alors moi, pour être un profil atypique, je l'ai été depuis très longtemps, déjà au début de master. Donc le master était spécialisé dans sécurité et défense européenne et internationale. Moi, mes cours préférés, c'était les cours de droit, les cours de sociologie de genre, par exemple, les cours un peu philosophie, type théorie de théorie des conflits, etc. Il y avait un cours aussi que j'aimais bien, mais qui était très différent, on va dire. C'était en rapport avec tout ce qui était sécuritaire, environnemental. Et finalement, en fait, maintenant, avec du recul, ce que je comprends, c'est que les cours qui m'ont intéressé le plus étaient ceux qui impliquaient à fond les sciences humaines. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai toujours aimé, c'est vraiment les sciences humaines, tout ce qui, dans un cours, touchait un peu à la sociologie ou, tu vois, la déconstruction de concepts. Là, j'étais à fond et j'adorais ça, en fait. Vraiment, c'est ce que je retiens. Alors, après, le reste était passionnant aussi, mais finalement, avec le recul, je sais pourquoi ça m'a peut-être moins marqué. Mais voilà.
Les sciences humaines, c'est un peu le fil rouge entre tes études, ton activité aujourd'hui, tes valeurs personnelles.
Ouais, complètement. Bah, depuis toujours, en fait. Même à titre personnel, moi, j'ai à cœur d'être dans un lien authentique, en fait, avec l'être humain en général. Ça veut dire que je peux me faire pote avec une personne de 65 ans, je peux me faire pote avec un ado qui passe par là, il y a des gens de mon âge, évidemment, mais tu vois, ouais, c'est vraiment l'être humain et ce qu'il a apporté au monde qui m'intéresse. Et puis, voilà, donc j'ai choisi assez rapidement, en fait, tu sais, par exemple, quand on devait rendre des devoirs, etc. Moi, je m'intéressais toujours à des choses un peu sociologiques. Même mon mémoire de fin d'études, c'était sur la sociologie des politiques publiques d'éducation. Bon, ben, voilà, quoi, tout est dit. C'est-à-dire que ça m'a toujours, toujours marqué et poussé à continuer, en tout cas.
D'accord. Et en plus de développer tes intérêts spécifiques pour les sciences humaines, la sociologie, qu'est-ce que ce master il t'a apporté au moment où tu étais étudiante et maintenant avec le recul, qu'est-ce que tu retiens de ce master?
Ce sera plus conceptuel comme réponse, on va dire. Ce qui m'a marqué le plus, c'est pas tant le contenu des cours, même si c'était fascinant de découvrir tout ça. Ce qui m'a marqué, c'était vraiment le rythme de travail, la rigueur exigée, la discipline, tout un cadre que j'ai toujours aimé, moi, à l'école, en fait. Moi, je m'épanouissais très, très bien à l'école. Et en dehors aussi, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que j'ai aimé ça. C'était aussi quelque chose, c'était un passage scolaire qui nous poussait aux ambitions. Et à se dépasser, à se poser des questions un peu plus lointaines que le semestre prochain, quoi. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était le contact très direct avec des étudiants étrangers. Donc, en fait, c'était complètement intégré dans notre classe. Et ça, j'ai adoré, donc forcément, parce que moi, l'être humain, voilà, l'étranger, super, quoi. Je me régalais. Mais principalement, j'ai appris beaucoup de rigueur et de capacité à travailler bien et vite. Parce que ça, ouais, directement après le master, avec mes premières expériences, je me suis rendu compte que c'était une force. Et c'est pas négligeable, parce que quand tu fais ta journée de travail et que tu sais que t'as une journée énorme, ou une semaine énorme, ou un projet qui dure des mois et que c'est considérable, tu sais te pousser à la discipline et tu sais rester déterminé tout en prenant des temps pour toi, et ça, c'est super important. Et c'est vraiment là que j'ai appris ça, ouais. Ça, c'est certain.
C'est quelque chose qui te sert aujourd'hui, du coup?
Ah bah oui, complètement. Tu vois, faire une activité auto-entreprise, c'est pas si simple, hein, au début, quand même. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. En fait, oui, c'est vraiment là que j'ai appris, hein. En fait, en réalité, après, évidemment qu'avec mes expériences professionnelles et puis mes expériences de vie par la suite, j'ai appris à être un peu plus dans la tempérance, un peu plus dans la patience, et puis anticiper un peu mieux, etc. Mais en tout cas, j'ai le souvenir très clair que c'est là que ça a commencé, où si tu veux quelque chose, quoi, faut y aller, et faut y aller correctement, avec une bonne rigueur et une bonne discipline.
Et pour revenir un petit peu plus sur ton parcours, en Master 2, tu pars à l'étranger, à Sarajevo, où tu vas étudier la psychologie des leaders. C'est là que tu prends d'ailleurs contact avec la psychologie, qui est ton métier d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience ?
Alors, c'était une sacrée expérience. Donc, c'était un échange, en fait, de fin d'année. L'idée, c'était donc soit de faire un stage de 6 mois et soit participer à un échange universitaire. J'étais la seule, autant te dire. Parce que je me disais, attends, c'est super, je suis en train d'apprendre des trucs, j'ai pas envie d'arrêter tout de suite. Donc j'ai été là-bas, c'était intéressant parce qu'en fait, j'arrive en tant qu'étudiante en master. Là-bas, en fait, j'avais déjà des compétences un peu plus poussées que les étudiants de master. Donc ils m'ont proposé d'avoir des cours de doctorat. Donc j'ai complètement accepté, c'était en partie lié à la résolution de conflits, s'intéresser voilà à comment la guerre en Bosnie a éclaté, pourquoi, avec la géographie sociologique, etc. Donc ça m'a fascinée. Et assez rapidement, dans un cours, je sais plus ce que c'est d'ailleurs, je crois que c'était résolution de conflits ou quelque chose comme ça, ou théorie de résolution de conflits. Et ben le prof m'a mis un bouquin entre les mains et m'a dit je pense que ça te plairait. Et c'était une théorie des politiques étrangères. Il y avait plein de théories, je serais incapable de te les ressortir, tu sais, un peu constructiviste, relativiste, etc. Et je sais plus le nom de cette théorie, mais qui implique la psychologie des leaders, en fait, comme point point central de toutes les dynamiques qui se jouent autour. Donc c'est complètement systémique aussi. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui dans mon travail j'utilise beaucoup la systémie. Et c'est là que du coup ouais, j'ai commencé à toucher un peu à la psychologie. Je trouvais ça fascinant. Et en fait il se trouve que c'était un grand pôle. Enfin cette université avait un grand pôle de psychologie. Donc j'ai rencontré plein de potes hein, maintenant qui étaient étudiants en psychologie. Et en fait moi ça me fascinait. Vraiment j'étais fascinée. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire là, c'est trop intriguant pour moi, je garde ça sous le coude au cas où. Et oui, donc c'est là que vraiment est né un petit déclic, on va dire, c'est pas un déclic à proprement parler, mais c'est plutôt qu'une graine a été posée là, et que plus tard elle a germé, et que je me suis rendu compte que ah oui, ça avait donné quelque chose quand même.
Et tu parles de systémie, est-ce que tu pourrais définir le terme rapidement ?
Alors, le définir exactement, je sais pas, mais moi, comme je l'utilise et comme je l'entends, dans ma pratique en tout cas, et dans les théories un peu psychologiques, c'est entendre qu'un individu se développe et évolue dans un contexte donné, avec tout un système autour, et ce système peut être complexe et lui-même composé de systèmes. C'est-à-dire qu'une personne, individu, naît au monde déjà dans un système familial, dans un système national. Ensuite, il y a tout le système éducatif. Après, il y a le système amical. Et on peut en fait décliner ça à l'infini. On peut ramener ça aux questions de genre. On peut ramener ça à l'identité socio-culturelle, religieuse. C'est hyper large et moi ça me fascine. Tu vois en fait avec les rencontres principalement et mes expériences pro, je me rends compte que c'est là que j'ai vraiment puisé mes informations et mes connaissances en termes de systémie humaine en tout cas. Après pour ce qui est de la théorie relations internationales, je laisse ça aux aficionados. C'est plus pour moi.
Et du coup, tu rentres dans le monde de la psychologie, on va dire, de façon progressive, donc au fil de tes expériences personnelles et aussi professionnelles. Mais est-ce que tu as eu vraiment un déclic vis-à-vis du métier de psychothérapeute ?
Tout simplement quand moi-même, j'ai fait une démarche de consulter une thérapeute et de voir, en fait, les bienfaits, les enjeux, etc. Et c'était après le premier confinement. Donc, si tu veux, les données statistiques de l'état émotionnel et mental de la population mondiale, Moi, je l'ai aussi vécu, en fait, hein, complètement à un niveau moindre par rapport à ce qui a pu se passer, ce qui se passe encore. Mais en tout cas, ça a provoqué en moi un déclic de « j'ai besoin de me connaître un peu mieux et un peu plus en profondeur ». Et en faisant ça, je me suis dit « mais c'est fascinant ». J'ai été lire, parce que moi j'adore lire, donc j'ai été bouquiner et rebouquiner, participer à 2-3 conférences, des choses en ligne, des classes en ligne, etc. Et à un moment, je me suis dit, je vais m'inscrire en fait, hein, parce que c'est vraiment ce que je veux faire, donc je vais le faire. Et c'était un peu un pari, reprendre les études un peu. En fait, je regrette pas du tout, c'était le meilleur choix. Et je suis hyper épanouie dans ce que je fais aujourd'hui.
Et comment tu as su que c'était la bonne voie pour toi ?
C'est un peu de tout, en fait. C'est un peu de tout parce que comme je te disais, j'avais des ambitions complètement autres. Mais en fait, à l'image de mon parcours atypique, comme tu le dis si bien, c'est que au fil de ma vie, enfin, au cours de ma vie, de mon histoire, j'ai eu des ambitions à chaque fois différentes. Et je les ai toujours écoutées, je me suis toujours écoutée là-dedans en me disant, si ça vient là maintenant, c'est pas pour rien. Et à la fois, du coup, oui, c'était un questionnement pas si simple à avoir avec moi-même, mais en fait, le questionnement était déjà là, les réponses aussi, donc il a suffi que je m'écoute. Et à l'intérieur de moi, comment j'ai su, c'est que j'étais bien. Je me sentais à ma place, je me sentais beaucoup moins parasitée par des questions d'anticipation d'avenir, etc. C'était pour moi une évidence d'être là. Tout comme ça a été à un moment une évidence d'aller à Espol. Hein. Voilà, moi je marche comme ça à l'instinct. Et en fait, pour rien au monde, je changerais ce fonctionnement parce que ça m'a fait vivre des expériences plutôt magiques. Après il y a eu des comme tout hein, comme tout projet, il y a des hauts, des bas, des moments de patience, des moments de doute. Mais en tout cas, depuis que je suis en formation et depuis que je commence, c'est aligné à l'intérieur de moi en fait. C'est que ok, c'est stable. Ça, je sais que en tout cas aujourd'hui maintenant, c'est ça que je veux.
Et la recherche de ce bien-être dans ton travail, le fait d'être épanoui, c'est ça qui t'a motivé à poursuivre dans cette voie?
Ouais, je crois au fond, ouais. Parce que j'ai toujours eu à cœur ça. Hein. J'ai eu depuis que j'ai 16 ans, hein, j'ai commencé à travailler moi. Donc, si tu veux être épanouie au travail, ça a pas toujours été l'objectif premier du travail. Et plus j'ai évolué dans mes expériences académiques et professionnelles, et plus je me suis rendu compte que pour moi, c'était une valeur primordiale. Parce qu'on passe énormément de temps au travail ou dans les études. C'est pour ça que j'ai toujours fait des études qui me plaisent. Et parfois, ça veut aussi dire aller à contre-courant. Hein. Mais tant que toi, t'es bien dans ce que tu fais, en fait, le reste peut aller autour, c'est pas grave. L'important, c'est à l'intérieur. Et moi, j'ai toujours écouté ça comme boussole, comme... Ouais, il faut que je sois bien au travail. Si je suis pas bien, il y a aucune raison que je reste.
Et il t'a fallu, j'imagine, plusieurs expériences pour comprendre tout simplement ce que tu voulais.
Ouais, écoute, plus de 10 ans. Comme je te dis, depuis mes 16 ans, je travaille. Et donc, à chaque expérience, t'apprends. Tu fais tes erreurs. Tu les notes bien dans ta tête. Parce que certaines erreurs font plus de dégâts que d'autres, on va dire. Mais chaque erreur est bonne à prendre. Ça peut paraître complètement foufou de dire ça. Surtout au public qui est visé par ce podcast, mais plus tu fais des erreurs et plus tu te connaîtras et plus tu sauras te guider toi-même en fait. En fait, l'erreur c'est un cadeau quoi, c'est trop bien de faire des erreurs. Mais quand tu les vis, c'est pas toujours simple. Mais c'est il y a rien de mieux, vraiment.
Ça c'est le regard de Imane la psychothérapeute.
Ouais, et aussi Imane qui a fait plein d'erreurs, tu vois. Et c'est ok. Et t'apprends et tu dis ok. Donc maintenant, je croyais vouloir ça. Je vais réajuster. Et maintenant je veux ça. Ok. Donc là j'ai fait cette erreur. Je vais pas faire la même. Super, ça marche. Il se trouve que c'est trop bien. Tu vois, c'est comme un indicateur. Comment on appelle ça? Tu sais, un indicateur de performance. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, la réussite se mesure aussi grâce aux apprentissages que tu fais de tes erreurs. Parce que si tu passes ton temps à faire des erreurs et que tu n'apprends rien, bon, voilà, tu perds du temps. Si tu passes une vie à juste croire que tu fais que des réussites, échanger sans, tu vois, être un peu poule sans tête. Bon, pose-toi aussi quelques questions. Mais si t'acceptes que tu fais des erreurs et qu'elles sont là pas pour rien et qu'elles sont là pour te guider, franchement, c'est tout bénef.
Et pour revenir un petit peu sur la formation que tu as fait pour arriver à ton métier actuel, tu as donc débuté une formation dont le point fort est qu'elle intègre la santé mentale à la santé en général, ce qui n'est d'ailleurs pas automatique aujourd'hui. Cette vision, tu la partages ou tu la construis ?
C'est intéressant ta question, je la partage ou je la construis, ben, je crois que c'est les deux. Je la partage, oui, entièrement. Je suis convaincue que esprit et corps ne font qu'un. C'est ma croyance. Mais il se trouve qu'il y a quand même quelques champs d'études qui travaillent à essayer de concrétiser ça par des données scientifiques, etc. Et c'est des succès dans plein de domaines. Et oui, je le construis aussi parce que du coup, c'est un champ plutôt novateur hein, de la psychologie. C'est quelque chose qui fait de plus en plus partie du débat actuel autour de la santé mentale. Mais encore faut-il l'avoir, et ce débat lui-même est nouveau. Il n'est pas si vieux, ce débat sur est-ce que la santé mentale fait partie de la santé, quoi. Ben écoute, moi je suis convaincue que oui. Les données scientifiques des répercussions sur la santé mentale du Covid, je pense qu'elles seront précieuses à l'avenir pour développer que ce soit la psychologie clinique classique, la psychanalyse ou la psychologie, la psychothérapie intégrative. Je pense qu'on est vraiment dans un moment de l'histoire où ça va basculer dans l'intégration totale de ça. Et ça, c'est ma croyance et c'est aussi pour ça que je me suis lancée. Et tant que j'y crois, tu vois, j'en vis, donc c'est cool.
On parle du coup de santé mentale et on parlait aussi en off du tabou qui entoure la santé mentale et surtout l'accès aux thérapies, aux soins. Est-ce que toi, dans ton métier, tu vois cette notion changer ?
Alors, je ne sais pas si je le vois changer, mais en tout cas, il est évident que les clients qui viennent me consulter, rares sont ceux qui viennent, tu vois, du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que l'idée germe, puis vient un moment où peut-être tu passes à l'action. Et ça, je peux pas m'empêcher de penser que oui, il y a encore le stigma d'aller consulter un thérapeute, c'est que tu vas mal, c'est que tu es fou. Et ça date, voilà, ça fait partie pour moi du siècle ancien. Allez, on passe à autre chose. C'est bon. On évolue, on innove, on apprend. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souffert de ça et qui, du coup, se sont privées d'aller consulter parce qu'elles en avaient besoin. Bien que matériellement, ça puisse être quelque chose de non considérable. Tu vois, aujourd'hui, il y a quelques mois, en France, passe une loi qui permet de faciliter l'accès aux soins thérapeutiques. Donc, avec la sécurité sociale qui rembourse à hauteur de 6 ou 7 séances, je ne sais plus, d'une demi-heure. Alors, ce n'est pas encore ça, mais c'est déjà ça. Et pour certaines personnes, ça peut déjà décriminaliser quasi l'acte d'aller consulter, en fait. Hein. Et oui, le tabou, je pense qu'il est en train de tomber. Après, ça dépend. Ça dépend de ton degré de déconstruction, ça dépend du degré de déconstruction de ta famille, de ton système, de tes systèmes. Tu vois, plus t'es jeune et plus tu es sensible au regard des autres, plus tu grandis, plus tu penses un peu à toi et ta santé, je crois. En tout cas, j'espère. Donc, oui, il y a un tabou et c'est un peu triste, notamment au vu de tout ce qui s'est passé ces dernières années et, vraiment, en fait, moi, ça a été aussi un déclic. Hein, c'est ce qui m'a poussée aussi à intégrer cette activité, ce domaine d'activité. C'est de voir que, en fait, en temps de crise, les crises qui sommeillent à l'intérieur des êtres humains éclatent et certains ne savent pas les gérer, ne savent pas les vivre, sont démunis, sont vraiment en situation de détresse. Hein. Et ça, c'est assez triste, notamment chez les étudiants. C'était une période difficile. Donc, étudiants et jeunes, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est vraiment, bah, ok, le tabou appartient au siècle précédent. Il fait plus partie de notre ère et venez, on évolue tous ensemble en fait, parce que il y a une évolution là à activer. On peut plus laisser ça comme ça, faut le faire.
Et comment toi tu œuvres, comment tu participes à briser ce tabou à la fois professionnellement et personnellement?
Eh ben moi je suis convaincue que il y a pas meilleur exemple que de donner l'exemple. Donc du coup moi-même, comme je t'ai dit, j'ai commencé la thérapie comme ça. J'en ai parlé autour de moi, mes amis, mes proches, ma famille, même au travail. Ça m'est arrivé d'en parler. Et en fait, eh ben tu te rends compte que les gens ah bon, ah ouais, ça a l'air intéressant. Mais t'apprends quoi? Et voilà. En fait, tu vulgarises le sujet, tu le démocratises, tu rends, tu donnes l'accès en fait. Et ça donne des idées en fait. Pareil dans mon travail, moi je pousse beaucoup mes clients et clientes à dire à leurs proches qu'elles consultent si jamais c'est pas fait. Pas pour le crier sur tous les toits, mais pour qu'elles-mêmes elles l'intègrent ou eux-mêmes l'intègrent comme étant quelque chose de normal aujourd'hui. C'est normal. Tu vois, t'es malade, tu vas voir ton médecin, c'est normal. Eh ben, aujourd'hui, si tu sens un mal-être d'ordre psychique, eh ben, tu consultes une thérapeute, un thérapeute, c'est normal. Et juste le répéter, tu vois, répéter que c'est normal. Et puis, si quelqu'un en parle, bah, accepter le débat et la discussion. Moi, de toute façon, c'est ce que j'aime aussi dans la vie. Hein. Donc, bah, je sais pas si c'est un effort particulier, mais, moi, j'ai à cœur de briser les tabous, quels qu'ils soient. Je m'y attelle, pas de souci.
Et hormis du coup les freins que certaines personnes peuvent se mettre toutes seules par rapport vis-à-vis de la consultation, vis-à-vis des soins de santé mentale, est-ce qu'il y a d'autres challenges que tu rencontres au quotidien dans ton métier?
Bah dans la pratique, oui, forcément. Chaque séance est différente, chaque être humain en face est différent et apporte son lot de complexité. Je crois que le plus difficile, c'est peut-être du coup de recevoir des clients-clientes qui viennent parce que leurs parents leur disent de venir. Et dès lors qu'il n'y a pas le facteur motivation personnelle, là c'est vrai que c'est difficile de travailler ensemble, mais à un moment, la motivation vient, ou à un moment la motivation ne viendra pas, et pas pour l'instant, pas avec moi peut-être, etc. Et ça j'accepte, et les gens cheminent avec ça, donc soit ils arrêtent, soit voilà. Et ça c'est peut-être le plus dur quand quelqu'un fait face à de résistances très très hautes. En fait, si tu veux, moi je peux rien faire à ce moment-là. Si t'es pas prêt, si tu veux pas le faire, je peux pas te forcer. Et puis si tu veux plus, et ben je vais te respecter, y a pas de souci.
C'est difficile justement de se heurter à quelqu'un qui refuse qu'on l'aide alors que cette personne en a besoin.
Après, ta question, elle est quasi philosophique, mais oui, c'est difficile. Bah oui, bien sûr, c'est difficile. Mais si tu veux, moi, je suis consciente de mon métier, de ce que ça implique et de mes limites. C'est-à-dire que je suis pas thérapeute pour sauver les gens. Tu peux sauver personne dans la vie. Ça, c'est à savoir. Tu peux t'aider toi-même, mais sauver quelqu'un, c'est pas possible. Donc, oui, c'est difficile à accepter parfois, mais c'est aussi le principe de réalité. Et tu acceptes, quoi. J'accepte entièrement que parfois les personnes ne veulent pas, ne peuvent pas, parce que c'est trop souffrant ou trop tôt ou peu importe. Dans ce cas, l'idée, de toute façon, de la thérapie, c'est vraiment de faire miroir des enjeux inconscients. Et alors, s'ils sont prêts à entendre que c'est un mécanisme de défense ou de, tu vois, de d'évitement, des choses comme ça, et ben, elles le prennent et c'est tout, quoi. Moi, je peux rien faire d'autre, en fait. Mais oui, oui, bien sûr que c'est difficile à voir. Mais je me dis que si la personne est venue et que même si elle a pas forcément participé à fond au travail, d'une certaine manière, inconsciemment, elle a participé et que ça reviendra certainement plus tard.
Et tu parles justement pour rebondir un petit peu sur. Sur la notion de limites que tu évoques, est-ce que ce métier t'a appris des choses personnellement sur toi-même? Est-ce que tu as découvert certaines limites? Est-ce que tu t'en es mise?
Ah oui, bah c'est nécessaire. Hein. Dans ce métier, avoir des limites, c'est nécessaire. Il y en a plein. La première, franchement, c'est de c'est de m'honorer dans mes sensibilités à moi personnelles. C'est-à-dire accepter que ça puisse me toucher ou que je me sente impuissante ou quelque chose comme ça.
Ensuite, oui, les limites, oui, il faut imposer. Oui, parce que tu as toujours les clients qui veulent grappiller quelques minutes. Bon, bah, y a quelqu'un derrière, donc du coup, il faut imposer le nom, faut imposer ça. Mais honnêtement, moi, j'ai de la chance, j'ai une clientèle tout à fait respectueuse, complètement, tu vois, au fait des enjeux. Et puis, en fait, dès la première séance, j'explique le cadre. Il y a toujours un cadre à poser. Donc ça marche comme ça, voilà ce qui va se passer, voilà les limites, machin. Et ça marche très très bien en fait. Tu vois, c'est la communication avant et ça marche très très bien. Après voilà, moi c'est mes limites professionnelles, donc ça fait partie du métier. Je vais pas toutes te les expliquer, il y en a un milliard, mais oui, évidemment qu'il faut des limites. Et ça c'est partout, avec tout le monde. Si t'as pas de limite, à un moment, ta présence ou ta valeur est quasi perdue, quoi. Donc ouais, c'est précieux, une limite.
Et maintenant que tu as un petit peu de recul sur tes expériences, sur ton parcours, tes études, les diverses expériences professionnelles que tu as eues, qu'est-ce que tu en tires? Est-ce que tu as des leçons que tu as apprises tout au long de ces expériences? Est-ce que ça a aussi éventuellement forgé ta personnalité, tes traits de caractère?
Oui. Après, j'avais quand même un caractère assez bien trempé. Mais ouais, clairement, ça m'a forgé. Alors, il y a plein de choses hein, que je pourrais dire pour répondre à ta question. En fait, comme je t'ai dit, moi, j'ai toujours fonctionné à l'instinct, à l'intuition. Dès lors que j'ai perdu ça à un moment dans mon parcours, je sentais qu'il fallait que je le retrouve et vite. Donc, m'écouter. En fait, vraiment, juste m'écouter et me respecter. C'est-à-dire ne pas accepter n'importe quelle situation à n'importe quel prix. Je l'ai fait. Donc, c'est pour ça que c'est une leçon très importante pour moi et que c'est une erreur précieuse. Vraiment, il n'y a rien au monde qui validerait le fait que tu te manques de respect et que tu ne t'écoutes plus. Il n'y a rien, vraiment rien. Le monde continuera de tourner, les gens continueront leur vie, sauf que toi, tu seras complètement abîmé par ça. Mais c'est pas grave, tu te remets de tout. Franchement, moi, j'ai vécu des erreurs, etc. Parfois, il faut encaisser le coup. Mais si, comme je disais au tout début du podcast, si tu acceptes que tu fais des erreurs et que tu acceptes d'en tirer quelque chose, franchement, c'est tout bénef. Parce que si tu fais que des erreurs, en fait, c'est que souffrant. Et là ça fait mal. Mais ouais, la principale, on va dire, valeur que je détache de toutes mes expériences et que je détache encore aujourd'hui, c'est vraiment de m'écouter et de m'honorer dans mes besoins et mes envies.
Et pour rebondir un peu sur ce que tu dis, tu évoques des moments un peu de passage à vide, de baisse de motivation. Dans ces moments-là, quelles ont été tes forces pour rebondir? Quelles ressources tu as réussi à mobiliser pour remonter en selle et au final arriver là où tu en es arrivé aujourd'hui?
Beaucoup de choses. La patience, accepter que ça prend du temps. Tout est processus, c'est que ça prend du temps. Ça, c'est à titre personnel. Après, le plus important aussi pour moi, c'était mes proches, mon soutien. Pouvoir me reposer à un moment sur les autres, comme j'ai accepté qu'on se repose sur moi. Que ce soit amis, famille. Franchement, ne pas hésiter à demander autour de soi. Ça, c'est vraiment important. C'est tellement important. Et parce que parfois, quand on peut plus faire tout seul, on a besoin de quelqu'un d'autre et il n'y a pas de honte à ça. Et au contraire, c'est ce qui fait la force de l'être humain. On est des êtres sociaux. Tout seul, on ne survit pas. Hein. Si dès la naissance, on restait seul, on ne survivrait pas. On a besoin d'être nourri, on a besoin d'être mis en sécurité, on a besoin de tout ça. Et c'est pour moi un besoin fondamental. Et quand tu traverses des choses de l'ordre du chaos, ou du passage à vide ou de la démotivation, déjà, ça arrive, c'est humain. Faut pas croire que c'est la fin du monde en réalité. Parce que c'est très simple de se laisser aller à ça. Et parfois, ça, je dis pas ça de manière à minimiser les ressentis. Au contraire, parfois, je sais que à l'intérieur, c'est vraiment le chaos et que c'est vraiment la catastrophe et que ça peut paraître comme la fin de quelque chose. Mais à la fin d'un cycle, il y a toujours un nouveau. À la fin de quelque chose, naîtra toujours quelque chose. Vraiment, du chaos naît la créativité, naît des projets, naît des moments, des souvenirs. C'est vrai que c'est puissamment inconfortable, mais faut pas lâcher. Ouais. Après, moi, voilà, j'ai mon prénom veut dire foi en arabe, et moi j'ai toujours eu la foi en quelque chose de plus grand. Alors chacun sa foi, chacun sa croyance, chacun sa détermination, etc. Mais moi je sais que même dans mes pires moments de doute ou de solitude, je me disais, je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas pourquoi, mais je garde la foi. Et ça, en fait, ça m'a été précieux, vraiment. Et tu vois, en fait, ça a été aussi garder la foi en l'être humain. Ça a été aussi garder la foi en mes projets, garder la foi en moi, garder la foi la complexité du monde, et que peut-être qu'il y a quelque chose que je comprends pas aujourd'hui qui m'échappe. Et c'est pas grave, je continue, je vais voir quand même ce qui se passe après.
Il y a aussi peut-être un aspect, on va dire, il faut pas culpabiliser d'aller mal, il ne faut pas culpabiliser d'avoir des moments où, oui, effectivement, on a un passage à vide, où on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas... On ne sait pas quelle sera la prochaine étape parce qu'on est perdu professionnellement ou scolairement.
En fait, c'est vraiment ça. Si chacune des personnes qui écoutent le podcast peuvent prendre un moment de pause et se remémorer leur passé, se remémorer les expériences qui viennent de se terminer, etc., il y a toujours eu un moment de crise. Il y a toujours eu un moment de passage à vide. Et on s'en sort. D'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout dans la vie que j'avais pensé avoir à 10 ans, ou à 15 ans, ou à 20 ans. Et franchement, tant mieux, quoi, parce que c'est très bien, j'ai changé, etc. Maintenant, franchement, chaque personne prend juste quelques secondes pour se dire « Ah bah oui, en fait, à un moment, mon cap a changé. À un moment, mon projet a changé. Et c'est OK. » Mais à ce moment-là, souvenez-vous de comment vous vous sentiez. Ça, c'était crucifiant, mais vous y êtes arrivé, quoi. Alors, c'est vrai que plus tu grandis, plus tu évolues, plus les moments de crise se complexifient. Mais vraiment, faut pas oublier qu'on a déjà vécu ça et qu'on s'en est déjà sorti. Et que parfois, aujourd'hui, ça peut paraître plus douloureux et peut-être plus difficile à réussir tout seul, toute seule. Mais vraiment, demander juste... Parfois c'est un message, parfois c'est un appel, des proches, un mail, une professionnelle. N'hésitez pas, franchement, vous serez surprise de voir la vie, quoi, comment elle se joue de nous, elle nous fait des pieds de nez là. C'est drôle en fait a posteriori, mais bon, quand on le vit, c'est difficile, oui. Mais faut pas oublier que tout est possible en fait, vraiment tout est possible.
Et est-ce que c'est ça que tu souhaites transmettre dans ton métier ou aussi personnellement, le fait que tout est possible et qu'on peut rebondir?
Ouais. Ah oui. Oui, parce que moi j'accueille des personnes en situation de souffrance, comme je te disais, en situation de crise, quasi toujours de l'ordre du deuil, hein, de soi-même ou d'un vrai deuil. Mais ouais, c'est douloureux. Pour les personnes qui vivent ça, c'est douloureux, c'est inconfortable, c'est inquiétant même parfois, elles s'inquiètent. Mais à chaque fois, oui, l'objectif c'est de leur transmettre que ça ira. D'une manière ou d'une autre, ça ira. Et ça changera potentiellement. Vivre un deuil, c'est douloureux. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Toujours. Et ça, on ne peut pas le savoir. C'est pour ça que, ouais, c'est garder foi. Peu importe ce que le mot foi veut dire pour vous. Gardez ça au fond de vous.
Et pour continuer sur la transmission, est-ce qu'il y a des conseils que tu voudrais donner aux étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont peut-être dans une situation difficile ou au contraire pour qui ça va, des conseils qui leur seraient utiles à l'avenir.
Alors, ouais, moi je tiens vraiment à dire que c'est pour cette raison que je participe à ce podcast, parce que mon message premier, c'est vraiment, il est vraiment adressé aux étudiants, aux jeunes adultes qui sont en train de devenir. Au vu de ce qu'on vient tous de traverser à échelle mondiale, je me rends compte que ça a dû être vraiment très difficile pour eux. Être étudiant, franchement, en 2020, ça devait être quelque chose de... Waouh ! J'ai aucune idée, en fait, de ce que ça pouvait être. C'est un moment où tu te construis, c'est un moment où tu te connais, c'est un moment où tu te recherches, c'est un moment où tu te poses des questions, où tu fais des erreurs et qui n'ont pas trop de conséquences sur ta vie, ça va. Et ils ont été privés de ça, vous avez été privés de ça, et ça, dans la construction d'un être humain complexe comme on est, c'est précieux et c'est quasi vital, hein. Et mon message, c'est vraiment de dire à ces étudiants qui sont mal en ce moment, bah, vous n'êtes pas tout seul. Et juste à côté de vous, il y a quelqu'un qui est prêt à vous écouter, prêt à vous aider, prêt à vous accompagner. Et ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, un message, ça peut être un appel, ça peut être un... ça peut être tout et n'importe quoi, mais faut... le plus dur, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Franchement, après ça... c'est impossible que rien ne change. Si vous avez le courage à un moment de canaliser toute une énergie à l'intérieur de vous et de dire à quelqu'un que ça va pas, vous allez voir que ça fait du bien. Et vous avez le droit d'aller mal. On va tous mal par moment. On est des êtres humains, donc c'est normal. La culpabilité dont tu parlais, elle peut être énorme. Et parfois, avec des passages à l'acte complètement... malheureux, quoi, triste et évitable. Les souffrances à l'intérieur de nous, elles peuvent nous faire peur et nous faire perdre toute notion du réel. Et ça, il ne faut pas négliger la puissance de ça. Si jamais vous êtes dans une situation comme ça, il y a énormément de contacts à avoir, à utiliser. Il y a plein de choses qui existent simplement. Vu qu'il y a eu un tabou pendant des années, on n'a pas le réflexe. Et moi, l'idée, c'est vraiment de dire aux étudiants, bah, faites-le, quoi. Faites-le, n'attendez pas que ce soit trop tard. Tout est possible, franchement, tout est possible. Tout peut changer, votre mal-être. Tout est acceptable aussi. Peu importe ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est acceptable. C'est OK. Vous ressentez ça et c'est OK. Personne ne vous jugera. Et y a des personnes dont c'est le métier. Et on est là, en tant que thérapeute, on a à cœur d'accueillir sans jugement, d'accompagner sans jugement. Et parfois, c'est ça qui fait peur aux gens. C'est la peur d'être jugé. Mais pas du tout, quoi. Nous, on est formés pour ça. Et vraiment, le plus dur, c'est le premier pas, le premier message, le premier mail, le premier appel. Mais faites-le, vraiment faites-le. Ça fait du bien et parfois, c'est vital, littéralement.
Le plus dur, c'est de tendre la main.
Ouais, vraiment. Hein. Mais c'est vraiment dur, c'est-à-dire que ça demande une énergie quasi de vie. Une énergie qui est là, mais qu'on perd de vue à un moment. Mais faites-le, vous allez voir. Même si vous avez peur de faire peur aux gens, etc., c'est pas grave. Écrivez un message, écrivez ce mail. Vos profs, pareil. Enfin, écrivez à la personne en laquelle vous avez le plus confiance. Et vous verrez que vous serez surpris par l'instinct social, en fait, qu'on se propose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand ça va mal, franchement, vous serez surpris de voir comment les gens réagissent. Les gens sont là, quoi. Et on est là aussi. Et on est tous autour et il suffit juste de nous faire signe. Tout petit signe, hein, mais on le verra, pas de souci.
C'est vraiment un message d'espoir que tu souhaites donner ?
Bah ouais, un message d'espoir et de résilience. Un message de... ça va aller. Vraiment. C'est au-delà de l'espoir pour moi, en fait. Parce que l'espoir, quand tu vas mal, c'est quasi inatteignable. C'est une fable. Mais la résilience, c'est vrai. Tu fais preuve de résilience très souvent. Ne serait-ce que quand t'es fatigué, épuisé, que t'as des examens, ah là là, tu sais pas quoi choisir entre ton sommeil ou ta réussite scolaire, tu fais preuve de résilience. Et c'est ça, en fait. C'est un message de tu peux y arriver. C'est pas que de l'espoir. C'est vraiment, tu peux y arriver. Je le sais parce que je le vois tous les jours dans mon métier et que moi, j'en ai fait l'expérience et que plein d'autres adultes en ont fait l'expérience. Et écoute les autres épisodes de podcast, quoi. Tu comprendras que ça arrive d'avoir des passages à vide. C'est normal. Faut pas s'inquiéter. Faut pas se mettre en danger pour ça. C'est normal. Et ouais, gardez espoir et gardez ce petit feu de vie en vous, quoi. Ne le perdez pas de vue.
Ben merci beaucoup, Iman, pour ce message que tu nous fais passer, que tu fais passer aux étudiants. J'espère que ça arrivera à bon port et j'espère aussi que ça inspirera.
J'espère vraiment. Et peu importe le temps que ça prend chez vous, le processus d'aller consulter ou non, ou de parler à des proches ou non, des amis, etc., de parler de vous-même, honorez-vous, respectez-vous en tout cas, vraiment. Écoutez vos besoins et écoutez vos envies. Il n'y a rien de plus précieux et respectez vos limites intérieures, vraiment. Il n'y a rien de plus précieux. Et ça va aller, vraiment, ça va aller.
C'est inspirant.
Eh ben, écoute, j'espère. Merci en tout cas. Merci à toi de m'avoir laissé la place de dire ce message parce que vraiment, ça me tient à cœur et j'y crois. Si j'y croyais pas, j'en ferais pas mon métier, vraiment pas.
Merci beaucoup, Iman, pour ce moment qu'on a passé ensemble. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci pour vos écoutes et vos retours. Continuez à le faire, ça me fait vraiment plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me laisser un message sur Apple Podcasts. Altitude est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Altitude est un podcast rendu possible grâce aux facultés de l'Université catholique de Lille. À très vite !